Avant-propos à la nouvelle édition 1918. C'est d'après deux questions fondamentales de la vie de l'âme humaine que s'oriente tout ce qui va être traité par ce livre. La première est de savoir s'il existe une possibilité de voir l'entité humaine de façon telle que cette vision s'avère être un soutien pour tout ce qui vient à l'être humain dans l'expérience ou dans la science, mais dont il a l'impression que cela ne peut pas se soutenir soi-même, que cela peut être poussé par le doute et le jugement critique dans le domaine de l'incertain. La deuxième question est celle-ci. L'être humain est-il en droit, en tant qu'être qui veut, de se déclarer détenteur de la liberté, ou bien cette liberté est-elle une simple illusion qui naît en lui parce qu'il ne distingue pas les fils de la nécessité auxquels est suspendu son vouloir, tel un processus naturel ? Ce n'est pas un tissu de pensée artificiellement ourdi que suscite cette question. Elle se présente tout naturellement à l'âme lorsque celle-ci est dans une certaine disposition. Et l'on peut ressentir qu'il manquerait à l'âme quelque chose de ce qu'elle doit être si elle n'était amenée à se poser un jour avec le plus grand sérieux possible la question de ces deux possibilités. Liberté ou nécessité du vouloir. Il sera montré dans cet écrit que les expériences de l'âme que l'être humain doit faire par la deuxième question dépendent du point de vue qu'il peut adopter à l'égard de la première. Il y est fait la tentative de montrer qu'il existe une vision de l'entité humaine qui peut être un soutien pour le reste de la connaissance. Et cette autre tentative, indiquée qu'avec cette vision, est acquise pour l'idée de la liberté de la volonté une totale justification, pourvu seulement que l'on trouve le domaine de l'âme où peut se déployer le libre vouloir. La vision dont il est question ici en rapport avec ces deux questions se présente sous une forme telle qu'une fois acquise, elle peut devenir elle-même un membre de vie de l'âme vivante. Il n'est pas donné une réponse théorique que l'on porte seulement avec soi comme une conviction gardée en mémoire une fois qu'on l'a acquise. Pour le mode de représentation qui constitue le fondement de ce livre, une telle réponse ne serait que fausse apparence. Il n'est pas donné ce genre de réponse toute faite achevée, mais il est renvoyé à un domaine d'expérience de l'âme où par l'activité intérieure même de l'âme, la question reçoit à chaque instant où l'être humain en a besoin une réponse renouvelée et vivante. À celui qui a trouvé le domaine de l'âme où se déploient ces deux questions, la vision authentique de ce domaine donne ce dont il a besoin pour ces deux énigmes de la vie, afin de continuer à parcourir avec cet acquis la vie pleine d'énigmes dans toutes les dimensions d'étendue et de profondeur que le besoin et le destin lui donnent l'occasion de parcourir. Il semble que soit indiqué par là une cognition qui témoigne de sa justification et de sa valeur par sa vie propre et par ce qui apparente cette vie propre à l'ensemble de la vie de l'âme humaine. C'est ce que je pensais du contenu de ce livre lorsque je le consignais par écrit il y a 25 ans. Aujourd'hui encore, il me faut écrire ces phrases si je veux caractériser les pensées constituant les buts de cet écrit. Lorsque j'ai jadis consigné ces choses par écrit, je me suis limité à ne pas dire plus que ce qui est, au sens le plus strict, en rapport avec les deux questions fondamentales qui ont été caractérisées. Si quelqu'un devait s'étonner que l'on ne trouve encore dans ce livre aucune indication sur le domaine du monde de l'expérience spirituelle qui a été présenté par moi dans des écrits ultérieurs, qu'il veuille bien songer que je voulais précisément à cette époque-là non pas donner une description de résultats de la recherche spirituelle, mais tout d'abord édifier le fondement sur lequel peuvent reposer des résultats de cette nature. Cette philosophie de la liberté ne contient aucun résultat particulier de cet ordre, tout aussi peu qu'elle contient des résultats particuliers du domaine des sciences de la nature. Mais, à mon avis, celui qui pour de telles connaissances aspire à une certitude ne pourra pas se passer de ce qu'elle contient. Ce qui est dit dans ce livre pourra être recevable même par bien des personnes qui pour des raisons quelconques valables pour elles ne veulent rien avoir à faire avec les résultats de ma recherche en sciences de l'esprit. Mais pour celui qui peut considérer ces résultats de la science de l'esprit comme une chose vers laquelle il est attiré, ce qui est tenté ici pourra également être quelque chose d'important. Cette tentative est la suivante. Mettre en évidence le fait qu'une observation sans préjugé, qui s'étend seulement aux deux questions fondamentales pour tout le connaître telles qu'elles ont été caractérisées, conduit à la vision que l'être humain vit au sein d'un monde véritable de l'esprit. On tente dans ce livre de justifier une cognition du domaine de l'esprit avant l'entrée dans l'expérience spirituelle. Et cette justification est conduite de façon telle que l'on n'a vraiment nulle part besoin, à propos de ces développements, de loucher déjà vers les expériences qui ont été mises plus tard en évidence par moi pour trouver recevable ce qui est dit ici, si l'on peut ou désire se prêter à la nature même de ces développements. Ainsi, ce livre me paraît d'un côté occuper une position tout à fait à part de mes écrits, qui font à proprement parler partie de la science de l'esprit. Et d'un autre côté, leur être pourtant lié aussi de la façon la plus étroite. Tout cela m'a incité à republier maintenant, au bout de 25 années, le contenu de cet écrit, pour l'essentiel presque à l'identique. J'ai seulement transformé des additifs un peu longs en une série de paragraphes. Les expériences que j'ai faites à propos d'erreurs de compréhension de ce que j'ai dit m'ont fait apparaître nécessaire de tels élargissements détaillés. Je n'ai introduit de modifications que lorsqu'il m'a semblé que ce que j'ai voulu dire il y a un quart de siècle était dit de façon maladroite. Seul, me semble-t-il, un lecteur animé de mauvaises intentions peut se trouver incité à tirer de ces modifications l'argument que j'aurais modifié ma conviction fondamentale. Le livre est épuisé depuis de nombreuses années déjà. Bien qu'il me semble, comme il ressort de ce qui vient d'être dit, que doit être exprimé aujourd'hui encore ce que j'ai exprimé il y a 25 ans à propos des questions qui ont été caractérisées, j'ai longtemps différé l'achèvement de cette nouvelle édition. Je me demandais toujours si je ne devais pas, à tel ou tel passage du livre, entrer dans un débat avec les nombreuses visions philosophiques qui sont apparues depuis la parution de la première édition. Le fait que je sois ces derniers temps accaparé par mes recherches en sciences de l'esprit pur m'a empêché de le faire de la façon qui me paraît souhaitable. Cependant, après un examen aussi approfondi que possible du travail philosophique de notre époque, je me suis convaincu que, si séduisante que soit en elle-même une confrontation de ce genre, pour ce qui doit être dit par mon livre, elle ne doit pas y être intégrée. On trouvera dans le deuxième volume de mes énigmes de la philosophie, ce qui m'a semblé nécessaire d'être dit sur les orientations modernes de la philosophie à partir du point de vue adopté dans la philosophie de la liberté. Rudolf Steiner, avril 1918.